Nous ouvrirons la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 11 et nous lirons les versets de 1 à 6. Matthieu 11, 1 à 6. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen.
Le doute fait partie intégrante de notre vie de tous les jours. Lorsque cette semaine j'ai vu le soleil, j'ai douté qu'il continue très longtemps à briller. Lorsque cette semaine j'ai vu le soleil, j'ai douté qu'il continue très longtemps à briller. Je doute que ce personnage politique soit honnête. Je doute de la compétence de ceci, de cela, etc., etc. Donc si je vais dans le dictionnaire, je vais avoir cette définition basique. Le doute, vous la connaissez. Par contre, je suis remonté il y a 2300 ans auprès d'Aristote, ce philosophe grec, qui a pour moi une définition assez intéressante. Voilà ce qu'il dit. L'ignorant affirme. Le savant doute. Le sage réfléchit. Et plus loin, il dira, « Dès que la conscience est apparue chez l'homme, le doute est né. Nous connaissons tous très bien pour l'avoir pratiqué, le doute ordinaire qui est l'expression d'un sentiment d'incertitude. Le doute est à l'origine des questions les plus essentielles de la vie, fondamentales même. Qui suis-je ? Mais aussi de la mort. Où vais-je ? Qu'y a-t-il maintenant ? De la connaissance, que sais-je ? Question sans réponse, interrogation de toute une vie. Voilà ce que dit Aristote. Alors nous allons essayer de lui répondre, mais pour ce faire, je vais remonter non pas à 2300 ans, mais à la nuit des temps. Je veux dire par là, lorsque Satan a inventé le doute. Lorsque Satan a inventé le doute. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a troublé un tiers, je dis bien un tiers des anges. Et il a entraîné dans sa chute un tiers des anges, ce qui est absolument incroyable. Fort de ce succès, il va récidiver. Lorsque Adam et Ève seront dans le jardin d'Éden, je rappelle ce qui signifie paradis. Adam et Ève seront dans le jardin d'Éden, je rappelle ce qui signifie paradis. Je suppose qu'ils sont heureux, plus qu'heureux. Tout va bien pour eux. Tout est formidable. Mais il va venir, il va arriver, il va se déguiser. Vous êtes sûr que Dieu vous a dit ceci ou cela ? Vous croyez ? Moi, je vais vous dire, je vous explique un petit peu, ce n'est pas tout à fait ça. Malheureusement, Adam et Ève ont cru à Satan, ils sont tombés. Adam et Ève ont cru à Satan, ils sont tombés, fermant pour eux ainsi, malheureusement, les portes de l'Éden et nous entraînant tous dans le péché, puisque maintenant nous sommes des enfants du péché. Heureusement, le deuxième Adam est né, c'est-à-dire Christ, et heureusement, il nous a sauvés de ce péché. Alors, si je regarde les grands hommes de la Bible, et je me dis, mais est-ce qu'ils ont douté ? Est-ce qu'ils ont tous douté ? Alors, j'ai un doute. J'ai un doute sur Daniel. Quand je lis ce livre, alors peut-être que ce n'est pas rapporté, mais on ne trouve rien. Rien, 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 aucun doute. Par contre, si je vais vers Abraham, le père de la foi, tu diras que tu es ma sœur. Parce que tu es tellement belle que ils vont me tuer. Bon, t'es ma demi-sœur, tu vois, un petit demi-mensonge, c'est pas bien grave. Et là, Abraham doute de la protection divine. Je vais prendre Moïse. C'est pas n'importe qui, Moïse. C'est pas n'importe qui, Moïse. De ses compétences. Quand Dieu lui dit, tu vas... Voilà, attends, moi, je suis pas l'homme. Je suis pas ton homme, non, non, moi. Quand Dieu lui dit, tu vas... Voilà, attends, moi, je suis pas l'homme. Je suis pas ton homme, non, non, moi. Ben, ça va pas, j'ai ceci, j'ai cela. T'inquiète, tu as un frère? Eh bien, c'est pas grave. Je vais me servir des deux. Et puis, je vais prendre un dernier... Je vais me servir des deux. Et puis, je vais prendre un dernier exemple, l'avant-dernier exemple plutôt, l'exemple d'Élie. Élie, le grand, très grand prophète. Que fait Élie? Il va faire descendre le feu du ciel, consumer l'Holocauste. Il va anéantir les mages, les prophètes de Baal. Pire, il va ressusciter un mort, le fils de la veuve de Sarepta. C'est pas rien. Il montera au ciel sans passer par la mort. Dieu va le prendre tellement c'est un grand prophète. Mais Jézabel, la femme d'Akab, ah oui, il a tué tous mes prophètes. Ne vous inquiétez pas, demain, il n'y a plus d'Élie. Élie prend les jambes à son cou et il se sauve. Il va se cacher au fond d'une grotte. Et Dieu lui dit, mais tu fais quoi là? Qui t'a envoyé ici? Élie a douté. Quelque part, c'est rassurant quand même pour nous. Alors, je vais prendre un autre exemple maintenant. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aura bien sûr un père et une mère. Et son père s'appelle Zacharie. Écoutons plutôt ce qui se passe chez Zacharie.
Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle devant Dieu. J'ai été envoyé, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, il resta muet.
Alors, à la fin de l'année 2013, pendant 3 mois, nous avons étudié le sanctuaire. Donc, je suppose pour chacun d'entre nous, il n'y a plus de secret sur son sanctuaire. Et on connaît la préparation qu'il fallait au sacrificateur pour rentrer dans le très saint. Pas sujet de rentrer comme ça, la fleur au fusil, non. Ils risquaient leur vie. Ils étaient en présence de Dieu. Il y avait donc toute une préparation. Il est même dit qu'ils étaient attachés à leur ceinture, car s'ils arrivaient à mourir, personne n'avait le droit de rentrer dans ce lieu très saint. On le tirait, on l'aurait sorti par là. C'est, je pense, jamais arrivé, mais il y avait des précautions qui étaient prises. Donc Zacharie et sa femme Élisabeth étaient des hommes pieux, très pieux. Et Zacharie, ce jour de Yom Kippour, a été choisi pour entrer dans le lieu très saint. Et là, il y a une apparition. Mettez-vous un peu à sa place. Quand on voit un ange d'une telle stature, d'une telle splendeur, on ne peut avoir que de la crainte. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Ta prière, on ne peut avoir que de la crainte. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Ta prière a été exaucée. Quelle prière ? Bah, la prière pour le pardon du peuple de Dieu. C'est bon, de ce côté-là, tout va bien. Maintenant, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas avoir un enfant. Jean-Baptiste, je ne vais pas tout relire, mais on l'a vu. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et ensuite, il aura la puissance d'Élie. On en a parlé tout à l'heure. Ça veut dire que ce sera un prédicateur extraordinaire, avec une très grande puissance. Oui, mais attention, moi je suis vieux. Ma femme est vieille. En plus, elle est stérile. Tu peux me donner un signe comme quoi ce que tu es en train de me dire, c'est vrai? L'ange Gabriel est apparu à beaucoup d'hommes de Dieu. Daniel, là il est question de Zacharie, il sera question de Jean, il sera question de Marie. C'est la seule fois où l'ange Gabriel, quelque part, se fâche. Et lui dit, mais attends, tu sais qui je suis là? Tu sais à qui tu parles? Mais je suis Gabriel, l'ange Gabriel, je me tiens devant Dieu. Il m'envoie pour te donner cette bonne nouvelle et toi, tu me demandes un signe. Bah, tu vas en avoir. Il m'envoie pour te donner cette bonne nouvelle et toi, tu me demandes un signe. Bah, tu vas en avoir un. Tu es muet à partir de maintenant, jusqu'à temps que toutes ces choses s'accomplissent. Il aurait pu ajouter, si tu veux un deuxième signe, je peux t'en donner. Non, c'est bon, un seul lui suffira. Et je pense que ça suffit à Zacharie. Ce même ange, 6 mois plus tard, a une autre mission. Écoutons.
Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un enfant, malgré son... Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un enfant, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. et l'ange la quitta. S'accomplisse pour moi, et l'ange la quitta.
Deuxième annonce de cet ange. La première était un peu difficile, il s'adresse à des vieillards, vous allez avoir un fils. Bon, mais ça peut se faire. Là, il s'adresse à une jeune fille et il lui dit, tu vas avoir un enfant. Oui, mais je suis vierge, je ne connais point d'homme, ce n'est pas un problème. L'esprit va descendre sur toi et la puissance de Dieu te couvrira. Là, on n'est plus du tout dans le même registre. Plus du tout. Ce fils, tu l'appelleras Jésus, fils du Très-Haut. Là, Marie aurait pu dire, mais bon, ok. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Marie n'a aucun doute. Et c'est ce qui va faire sa force. C'est extraordinaire. On ne peut être qu'admiratif devant cette foi qu'a Marie. Marie n'est pas n'importe qui. Alors l'ange lui dit, Marie n'est pas n'importe qui. Alors l'ange lui dit, ce dont Jésus sera un descendant de David. Parce que Joseph est un descendant de David. Mais Joseph n'est pas son père. De David. Mais Joseph n'est pas son père. Par contre, Marie est descendante aussi de David. Donc, il est bien descendant de David par Marie. On ne connaît rien pratiquement de la jeunesse de Jean-Baptiste. Il y a eu cette annonciation, mais on ne connaît rien. Mais on va y revenir plus tard. Que fait Marie ? Elle vient de dire qu'il me soit fait selon ta volonté. Que fait-elle ?
Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie, plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi, qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Qui a cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé.
Donc, vraisemblablement, par rapport à ce qu'il nous est rapporté, Marie attend Jésus. Elle se dirige vers sa tante. Elle se dirige vers sa tante. Elle va saluer sa tante. Elle va saluer sa tante comme on vient de l'entendre. Quelqu'un de normal ne pouvait pas dire ce qu'a dit Élisabeth. Seul le Saint-Esprit pouvait la pousser et dire les paroles qu'elle a dites. Parce qu'elle dit, tu es bénie plus que toute femme et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne vers moi. Et là, elle dit, car vois-tu, au moment même où j'ai été entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Comment est-ce possible ? Jean-Baptiste n'est pas né. Jésus, on dirait aujourd'hui, est un embryon. Mais tout à l'heure, qu'a dit l'ange Gabriel à Zacharie ? Et il sera rempli, en parlant de Jean Baptiste, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc c'est l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Donc c'est l'Esprit Saint qui va pousser Jean Baptiste à reconnaître, alors qu'il n'est pas né, Jésus comme le Fils de Dieu. Personnellement, ça me dépasse très largement. Mais il y a tellement de choses qui me... Personnellement, ça me dépasse très largement. Mais il y a tellement de choses qui me dépassent que je ne suis plus étonné. Donc j'en reviens à notre ami Jean. Je disais tout à l'heure, on ne connaît rien du tout de sa jeunesse. Rien. On sait que c'est le cousin de Jésus, mais à partir de quel moment va-t-il prêcher ? Alors en toute logique, prêcher. Alors en toute logique, il est là pour préparer le chemin du Seigneur Jésus. S'il se met à prêcher des années avant, ça ne va pas. Ça ne peut ça servir de rien, les gens vont oublier. Donc il va prêcher, à mon avis, quelques mois avant que Jésus commence son ministère. Il va prêcher où et comment ? Je prends mes notes parce que je ne peux pas ce matin lire tout de mémoire. Dans Matthieu 3,1, il nous est dit « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. » Jean prêche dans le désert. Quand j'étais gamin, le désert pour moi c'était le Sahara. Je ne connaissais pas autre chose, peut-être la toundra. Donc Jean va prêcher dans le désert, dans le sable, il va baptiser les gens dans le sable. C'est bien ce qui est dit. Chez les Hébreux, il faut toujours se remettre dans le contexte. La Bible est écrite par les Hébreux, pour les Hébreux. Et le mot « désert » chez les Hébreux signifie « absence d'habitation ». Absence d'habitation. Et Jean d'habitation. Absence d'habitation. Et Jean-Baptiste baptise dans le Jourdain. Donc le Jourdain, on n'a pas le temps de passer toutes les diapos, ça a duré beaucoup trop longtemps, mais le Jourdain, on l'a déjà projeté, c'est un fleuve magnifique, beaucoup trop longtemps, mais le Jourdain, on l'a déjà projeté, c'est un fleuve magnifique, bordé d'arbres, de verdure, et c'est un chemin qui relie le nord, le sud, le nord, donc c'est un passage obligé de marchands, qui relie le nord, le sud, le nord, donc c'est un passage obligé de marchands. Et c'est là où Jean va rencontrer le plus de monde. Il va prêcher à ces gens. Et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, avec la force d'Élie. Quand on regarde en profondeur la méthode de Jean, on dirait aujourd'hui, excusez l'expression, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il ne prend pas de Jean. On dirait aujourd'hui, excusez l'expression, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il ne prend pas de gants. Problème. Il va dire au roi, ça ne va pas du tout ce que tu as fait là. Ce n'est pas bien. Tu as pris la femme de ton frère, tu es en adultère. Alors tu arrêtes. Le roi aime beaucoup Jean-Baptiste, c'est un grand prophète, aimé par tout le monde. Mais là, il rentre dans son intimité. Et ça, ça ne lui plaît pas. Donc il le fait jeter en prison. Ça le calme. En ce qui concerne Jésus, on connaît bien évidemment une partie de sa jeunesse. Il est né à Bethléem, il va partir avec ses parents en Égypte, il va revenir, à 12 ans il ira dans le temple, on sait qu'il va discuter avec les grands de ce monde. Et puis ensuite on sait qu'il va travailler avec son père, il est charpentier. N'est-ce pas le fils du charpentier ? Donc, il est charpentier. N'est-ce pas le fils du charpentier ? Donc, on connaît la vie de Jésus. Et je crois que les chemins se croisent plusieurs fois entre Jean-Baptiste et Jésus. Puisque quand Jean-Baptiste aperçoit Jésus, il dit « Voici, quoi ? L'agneau qui sauve, qui ôte les péchés du monde. Je ne suis même pas digne de délacer ses souliers. » Quand Jésus va s'approcher de Jean-Baptiste pour qu'il soit baptisé, Jean-Baptiste aura la même réaction que Pierre. Non, pas, certainement pas. Certainement pas. Je ne suis pas digne. Mais Jésus va insister. Et il va le baptiser. Et lorsqu'il l'aura baptisé, Nous avons relevé cette, on ne pouvait pas le voir, mais ce n'est pas grave, je vais vous le lire. Il y a des inscriptions écrites dans toutes les langues au bord du Jourdain, et j'aime bien cette traduction que les Hébreux ont fait de ce qui s'est passé. En ces temps-là, Jésus arriva de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Aussitôt, comme il remontait de l'eau, il vit les cieux entrouverts. L'Esprit descendait sur lui, comme fait la colombe. Et ce n'est pas la colombe qui descend, c'est l'Esprit de Dieu qui descend, comme fait la colombe. Et du ciel venaient ces paroles, « Tu es mon Fils, le bien-aimé, c'est toi qui m'as plu de choisir. » J'aime bien cette traduction. Donc Jésus va être baptisé par Jean, et puis après ils ne se croiseront plus beaucoup. Chacun fait son chemin, on vient de le voir, Jean est en prison. Le pauvre, il terminera mal sa vie, rappelez-vous. Lorsque le roi organise une fête, la fille de sa femme va opérer une certaine danse. On peut l'imaginer aujourd'hui, le style de danse qu'elle a fait. Elle est certainement très belle. Elle est certainement très belle, puisque le roi lui dit, écoute, tu me demandes, monsieur, tu veux, si c'est même un tiers de mon royaume, je te le donne. Cette jeune fille est très embarrassée. Elle va voir sa mère, qu'est-ce que je peux lui demander? Pas de problème. Tu lui demandes sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. C'est une sentimentale. La tête de Jean-Baptiste sera amenée sur un plateau. Voilà la fin de Jean-Baptiste. Mais avant qu'il ne meure, alors qu'il est en prison, Que fait-il? On nous l'a lu au début. Je vais reprendre. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Je ne vais pas lire la suite parce que je vois le temps passe. Mais on voit que Jésus prend les miracles qu'il fait comme preuve de sa messianité. Qu'en est-il aujourd'hui? J'aimerais vous que l'on passe un court métrage.
On sait que c'est même des choses qui sont admises aujourd'hui par les Juifs qui refusent la messianité de Jésus parce que c'est quelque chose de commun en Galilée à cette époque. Les miracles comme Jésus en a opéré en Galilée à cette époque, on a des dizaines de rabbins qui portent le nom de Hanina ben Dosa, de Choni. On a des dizaines de rabbins qui portent le nom de Hanina ben Dosa, de Choni Amagal et d'autres qui font ces mêmes miracles signes. Une majeure partie pourrait être aujourd'hui interprétée comme de la médecine, de la psychologie, et d'autres de ces choses, et qui sont à l'époque interprétées comme véritablement des miracles, signes ou miracles. Exactement les mêmes. Guérison et guérison à distance, multiplication de nourriture, c'est quelque chose qui est même admis à l'intérieur. Des rabbins pharisiens en faisaient énormément. La seule preuve de la difficulté de Jésus dans le christianisme, c'est la résurrection, qui est énormément acceptée par les pharisiens.
Ce guide est en train de nous dire, en parlant des miracles de Jésus, des dizaines de rabbins font la même chose. Il en cite deux, hein, mais il y a des dizaines. Bon, je veux bien. Alors, c'est vrai et c'est faux, parce que Satan utilise toujours la vérité pour aller vers le faux. Sinon, ça serait trop gros, on ne le croirait pas. Donc, on part du vrai et on va vers le faux. Si c'était vrai, Jésus n'aurait pas dit pour Jean-Baptiste, « Regardez, voyez, rapporte-lui. » De tout temps, il y a eu des miracles. Rappelez-vous, j'en reviens à Moïse. Quand Dieu lui dit, « Mais tu vas aller vers Pharaon, maintenant j'y vais les mains dans les poches. » Il n'a pas dit ça, c'est pas vrai, c'est moi qui l'ajoute. Dieu lui dit, tu as un bâton, prends le bâton de ton frère, jette-le à terre. Le bâton se transforme en serpent. Ah, c'est quand même quelque chose, hein. Il fait ça devant le pharaon, il appelle ses magiciens, ils prennent leur bâton, ils le jettent, et tous leurs bâtons se transforment en serpents aussi. Seule différence, c'est que le bâton de Moïse va manger tous les autres. Là, c'est autre chose. Et de miracle en miracle, les magiciens feront un petit peu la même chose, sauf à un certain moment, stop, il n'y a plus de possibilité. Parce que Satan, à un certain moment, stop, il n'y a plus de possibilité. Parce que Satan est limité dans ce qu'il fait. Dieu l'a limité. Quand Jésus opère des miracles, que disent les rabbins ? C'est par Belzébuth que tu fais ce miracle, vous vous en souvenez ? Ce qui signifie que Belzébuth fait des miracles, des petits miracles, dont parlait ce guide, c'est-à-dire style placebo. Mais il ne ressuscite pas des morts, ce n'est pas vrai. Il ne guérissent pas des paralytiques, sinon le paralytique serait pas resté une trentaine d'années à la porte. Ils ne guérissent pas les lépreux, ce n'est pas vrai. Donc le problème est le suivant. Ce guide, il parle à des milliers de personnes. Si les gens n'ont pas la connaissance,